Chapitre 67. Le jour n'est pas encore levé lorsqu'Eric et Moa prennent leur petit déjeuner assis à la table de la cuisine. Ils ont allumé la troisième bougie du chandelier. Les flammes dansent dans le courant d'air venant de la fenêtre. Le vent souffle plus fort aujourd'hui. Des rafales secouent les arbres et soulèvent les vieilles feuilles d'automne du sol. Hier, Eric lui a préparé un bif Rydberg avec des morceaux de filet de bœuf sauté, des dés de pommes de terre rôties au four, des oignons fondus, de la moutarde de Dijon et un jaune d'œuf. Moa portait un pantalon noir brillant et un débardeur noir à sequins lorsqu'elle est arrivée. Eric était bien conscient qu'elle le rendait nerveux. D'une façon agréable, se disait-il. Il avait pris une douche, s'était rasé minutieusement, mais il n'arrêtait pas d'éternuer après avoir taillé les poils de son nez. Il portait une chemise bleue, un chino décontracté, des chaussettes noires, et avait rangé ses chaussures dans le placard. Pendant qu'il mangeait, elle lui a confié qu'elle doutait que son ex-mari cherche vraiment un logement. Eric a juste eu le temps de lever sa serviette et de se détourner avant d'éternuer, les yeux brillants. « À tes souhaits !»« Pardon, je suis pas malade » a-t-il réussi à dire avant d'éternuer à nouveau. Elle a passé un dernier morceau de viande dans la sauce, l'a porté à sa bouche, l'a mâché les yeux fermés, puis a déposé ses couverts. « Je sais pas, peut-être que ce n'est pas si grave » a-t-elle dit en touchant le petit cœur doré qui pendait à une fine chaîne autour de son cou. « Je connais Bruno, il va rester dans la dépendance. Il joue à des jeux vidéo comme tous les mecs. Mathilda descend parfois le voir pour qu'il l'aide à faire ses devoirs. Mais ça ne peut pas durer comme ça. » « Pas si tu ne veux pas. » « Non, merci. Je ne veux surtout pas qu'il reste là, » a-t-elle dit en réprimant un bâillement. Eric s'est levé de table, a ouvert une nouvelle bouteille de vin lorsqu'un imperceptible mouvement l'a fait se tourner vers la fenêtre de la cuisine. À travers les reflets, il pouvait deviner la barrière du voisin et le tas de compost. Puis, il a cru apercevoir une silhouette fine près du pommier nu. Il a prétexté vouloir sortir les poubelles, a pris le sac sous l'évier, s'est dirigé vers l'entrée pour enfiler ses bottes et est sorti, en simple chemise. Des rafales de vent faisaient voler la neige. L'air était glacial, le couvercle de la poubelle avait gelé, et il lui a fallu tirer plusieurs fois avant de réussir à l'ouvrir. Au lieu de rentrer immédiatement, il a contourné la maison, a jeté un coup d'œil à la cuisine éclairée, et a vu que Moa s'était levée pour débarrasser la table. Puis, écoutant le bruissement des feuilles mortes derrière le tas de compost, il s'est avancé vers la clôture. Il a été parcouru d'un frisson en voyant des empreintes dans la fine couche de neige près du pommier. Quelqu'un s'était tenu là, à regarder par la fenêtre. Eric est revenu à l'intérieur, a verrouillé la porte et a rejoint Moa. Puis, se sentant observé, il a tiré les rideaux en lin devant la fenêtre. Ils ont emporté le vin dans le salon et se sont installés sur le canapé, chacun adossé à un accoudoir, leurs pieds se rejoignant au centre du coussin. Il a mis un disque de Charlie Parker, créant une ambiance de club de jazz de la fin des années 1940. Moa s'est endormie pendant qu'Eric lui parlait du phénomène de résonance hypnotique, de la transe de l'hypnotiseur et de la sensation de plonger dans de l'eau saturée en oxygène. Il s'est laissé aller en arrière, pensant à la couverture qu'il pourrait lui apporter et au lave-vaisselle qu'il devrait remplir. Puis, il s'est réveillé à 6h30 du matin. Ils avaient dormi ensemble sur le canapé toute la nuit. « On était peut-être un peu fatigués hier, » dit-elle en versant du café. « J'ai aimé qu'on dorme si bien l'un à côté de l'autre. » « Juste une chose, je dois savoir si j'ai été trop insistante la dernière fois, » dit-elle en le regardant. Quand je me suis jeté sur toi et que j'ai commencé à masser tes épaules. « Quoi ? Non, arrête. Tu as crié dès que je t'ai touché, » dit-elle en nettoyant la table. « Je n'ai pas crié, » répond-il en souriant. « Aïe !» limite-t-elle en accrochant le torchon. « Ah non, en fait j'ai une blessure au couteau qui a abîmé quelques nerfs. »« À l'épaule ?» demande-t-elle d'un air moqueur. « Regarde, » dit-il en déboutonnant sa chemise et en montrant son épaule. « Pardon, mais ça ne ressemble pas à une blessure au couteau, » dit-elle en souriant largement. Il se retourne et montre l'orifice de la plaie. Ah, c'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-t-elle. Un patient qui n'était pas entièrement satisfait de la thérapie. Attends, il a essayé de te tuer? Je sais pas, je crois pas. Il avait une arme? Non. Juste le coupe-papier que j'ai sur mon bureau au cabinet. Oh, je veux voir. Il se lève et elle le suit dans la pièce où il reçoit ses patients. Par la fenêtre, l'herbe d'hiver scintille à l'arrière de la maison. Il allume sa lampe de bureau et la lumière se répand sur les piles de livres et de publications académiques, l'armoire à archives, le fauteuil et le canapé en cuir marron. Mon patient a pris ça, dit-il en lui tendant la fine lame du coupe-papier posée près de l'ordinateur. Tu rigoles, s'étonne-t-elle en prenant la longue lame dans sa main avant de la lui rendre. Elle m'a traversé, répond-il en reposant le coupe-papier dans son support. Eh bien, t'es un dur en fait, sourit-elle en montrant ses dents pointues. J'étais cloué au sol, explique-t-il en montrant l'empreinte sur le parquet en chêne. Allonge-toi comme tu étais. Il s'assied maladroitement, se penchant en arrière contre le sol. Elle se place sur lui, à califourchon, se penche, colle ses hanches à son bassin et fait semblant de lui planter un couteau dans l'épaule. Maintenant tu es coincé, dit-elle en l'embrassant. Tu ne t'échapperas pas cette fois. Elle l'embrasse de nouveau, frotte doucement son bas-ventre contre le sien, déboutonne doucement sa chemise. Elle est en train d'enlever son débardeur noir à sequins lorsque la sonnerie de la porte retentit. « Je dois y aller, » dit-il. « Ok, je te lâche, si tu promets qu'on reprendra là où on s'est arrêté, » dit-elle en faisant semblant de retirer le coupe-papier de son épaule. Ils se lèvent et remettent de l'ordre dans leurs vêtements. La sonnette retentit à nouveau. Il l'embrasse sur la bouche et se précipite à travers la maison jusqu'à l'entrée. Il ouvre et voit Yuna Lina, manteau ouvert et cheveux décoiffés par le vent. « Désolé de te déranger, mais j'ai besoin de ton aide, et tu ne répondais pas au téléphone, » dit Yuna. « Entre. Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Eric. Yuna fait un pas en avant et referme la porte derrière lui. « On a un nouveau meurtre, et Hugo Sand se dit prêt à être hypnotisé une dernière fois, » dit-il d'une voix basse, alors qu'il entend les pas de Moa qui se rapproche. « Maintenant ?» demande Eric. Oui, malheureusement. Moa arrive et serre la main de Yuna. Il s'excuse et lui dit qu'il aimerait bien lui louer Eric pour quelques heures. Tu n'as pas besoin de payer, à condition que tu prennes soin de lui, répond-elle. Je reviens dans 3 heures au plus tard. Je serai vraiment content que tu restes. Prends un bain, on prend un livre, ce que tu veux, dit Eric. Les vieux amis sont assis dans la voiture qui file en direction d'Uppsala. Une violente rafale fait trembler le véhicule. Comment va Valéria? Demande Eric. Elle sent qu'elle doit rester encore une semaine, répond Yuna. C'est une période difficile, mais elle semble aller bien. C'est bien qu'elle soit là-bas. J'ai protégé la maison et les serres du mieux que j'ai pu. Personnellement, je ne me préoccupe pas de cette tempête. J'ai l'impression que les médias exagèrent. Yuna rit en évitant une boîte en carton déchirée qui traîne sur la route. Il lui raconte sa conversation avec Agnetha, et Eric lui répond qu'il fera tout son possible pour que Hugo ne souffre pas. J'ai pu interroger sa petite amie, et j'ai eu confirmation qu'il y a des fragments de réalité dans les rêves de Hugo, raconte Yuna. C'est logique, mais on ne peut jamais être sûr. Je sais pas. C'est comme si son cerveau se détournait, comme si dans le monde de ses rêves, il redoutait la peur elle-même. Eric précise que la recherche clinique a montré que la coopération entre les différentes parties du cerveau est gravement altérée après un traumatisme psychique. Le lobe temporal droit, responsable de la communication non verbale et de l'intuition, devient plus actif que le côté gauche du cerveau qui gère le langage et la pensée logique. C'est de la peur sans mots, explique Eric. Il n'est pas réceptif au raisonnement, il revit juste la terreur, comme un animal. Une ambulance passe, toute sirène hurlante. La neige commence à s'abattre sur le pare-brise. C'est probablement notre dernière chance, dit Yuna. Je vais faire de mon mieux. Mais Hugo est assez imprévisible. Ses rêves sont tellement intenses qu'il risque de le sortir de l'hypnose à tout moment. Mais concentre-toi sur du concret, quelque chose de palpable, comme une description, un tatouage, une montre particulière, des bijoux, et bien sûr la plaque d'immatriculation de la voiture.